Par contre, ça sera à 20h. Donc, c'est la compagnie de théâtre Les Assoiffés d'Azur, que vous connaissez probablement dans d'autres contextes, qui viendra lire un texte et mettre en son un texte de Kate Tempest. Alors, maintenant, elle s'appelle Kate Tempest. Oui, il s'appelle, enfin, bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est un texte très contemporain et qui est un petit peu différent de ce que peuvent faire Les Assoiffés d'Azur en général. Donc, je vous invite à venir le voir, sachant qu'après, il y aura la suite de la soirée au cinéma Le Kid, où il y aura une soirée court-métrage dans laquelle il y aura un film sur eux de 20 minutes. Voilà, vous avez peut-être déjà vu ces informations-là dans la presse. Donc c'est une soirée qui n'en finit pas, qui démarre à 8h chez nous. Après, il y a le film et après, il y a un concert. Voilà. Et ensuite, au mois de juin, ça, vous ne devez pas encore forcément avoir l'info. Donc on est ravis, on a réussi à faire venir un auteur américain à sèche. C'est Pete Frome, peut-être certains connaissent. C'est donc l'écriture des grands espaces américains. Donc il a fait Indian Creek, il a fait plein de livres incroyables. Donc il viendra, la rencontre sera évidemment traduite aussi, pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et puis le 16 juin, donc on a aussi une belle rencontre à venir, c'est avec Sylvain Prudhomme, qui est un auteur qui a notamment reçu le Fémina en 2019 pour Sur les routes. Et voilà, là on aura l'occasion d'en parler.
Par les routes.
Par les routes, j'ai dit sur les routes.
Oui,
C'était le côté Kerouac, ça. Par les routes. C'est bien, il y en a qui suivent, qui l'ont lu. Voilà, et puis on préparera d'autres choses pour la rentrée, mais voilà en gros le programme des semaines à venir. Voilà, je laisse Fabienne présenter la soirée d'aujourd'hui.
Donc je voudrais redire quand même qu'on est vraiment très très heureux d'accueillir donc Alexandra et David, donc, qui est l'éditeur d'Alexandra. Quand on a décidé d'entamer notre programmation, on a cherché des gens avec qui on avait vraiment des rapports importants, François-Xavier et moi. Et donc, bon, Alexandra, moi, dans ma carrière de libraire, jeune carrière de libraire, est une autrice vraiment importante pour moi. Il y a des livres qui vous marquent. Je peux dater précisément le jour où j'ai lu « À crier dans les ruines ». Et ce que j'en ai ressenti. Alexandra est venue à la librairie où je travaillais précédemment, donc on avait déjà organisé une rencontre en 2019. Il se trouve que « À crier dans les ruines » a pour cadre l'Ukraine, donc on n'a pas... L'actualité nous a tristement rappelé à l'ordre, mais voilà, c'était pas un choix. Le choix, c'était aussi une amitié. Et donc que en quelque sorte voilà, tu présides, enfin tu distilles dans la librairie tes bonnes ondes, donc voilà. Je peux peut-être te laisser te présenter.
Oui, hein. Donc je suis Alexandra Kozelik, j'ai écrit un premier roman, donc À crier dans les ruines, en août, qui est sorti en août 2019. Et puis un autre qui est sorti en janvier 2021, et donc chez les adultes. Et dernièrement, en janvier 2022, Le Sanctuaire des Mona, qui est plutôt pour les grands ados, jeunes adultes, même si j'aime pas trop les étiquettes. Je pense qu'on peut lire À crier dans les ruines, oui, quand on a 15 ans, et Le Sanctuaire des Mona quand on est... On a plus de 35 ans, donc voilà. Alors, que dire
Alors, on t'a présenté en fait comme étant d'origine ukrainienne. Oui. Donc, parce que bon, je ne sais pas si tout le monde a lu en fait « À crier dans les ruines ». Donc, on va essayer de ne pas...
tout dévoiler.
Exactement. Donc, en fait... juste pour présenter peut-être le sujet du livre.
Oui. Alors, À crier dans les ruines commence par la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Et on va suivre deux adolescents. Ils ont 13 ans au moment de la catastrophe. Ils s'appellent Léna et Ivan. Léna a la possibilité de partir avec ses parents et d'arriver en Normandie, du côté de la Hague. Et Ivan, lui, reste dans le pays. Et... quand Léna arrive en France, son père lui dit d'oublier d'où elle vient, parce qu'ils n'y retourneront jamais. Et donc on va avoir une narration un petit peu croisée entre Léna qui grandit, et qui grandit pas forcément bien, parce qu'elle a plein de questions, et Ivan, lui, qui écrit des lettres à Léna, avec son quotidien. Et malheureusement, il ne peut pas lui envoyer. Donc, on a une double narration. Et quand le roman s'ouvre, on sait qu'elle est revenue en Ukraine 20 ans plus tard. Mais savoir pourquoi elle a mis autant de temps à revenir, c'est l'objet du roman. Donc, c'est un roman autour des racines, aussi autour de l'amour, mais un amour perdu en quelque sorte, son premier amour, mais aussi l'amour d'une terre, l'amour
de la nature aussi.
La nature. La nature, en fait, ça a été mon premier personnage. Parce qu'en fait, quand la catastrophe a eu lieu, donc il y a eu une zone interdite à l'homme tout autour de Pripyat. Donc Pripyat, c'est la ville qui avait été construite pour les ouvriers de la centrale. Et donc on a une zone qui était complètement calcinée. Les scientifiques pensaient que rien ne pourrait y repousser. Et malgré tout, 2 ans après, la nature avait repris ses droits. Donc c'est devenu une zone finalement de recherche pour les scientifiques. Savoir comment la nature avait pu recréer un écosystème. Donc, ce n'est pas un écosystème... disons que la radioactivité est toujours aussi forte, mais la nature a essayé de compenser justement ce qui s'était passé. Voilà. Donc, c'est ce qui a déclenché l'écriture. Effectivement, cette nature qui, quand vous tapez Pripyat dans Google, vous avez une forêt qui a repris ses droits, qui est là et qui, moi, m'a fascinée. Et alors oui, je suis d'origine ukrainienne. En fait, mes 4 grands-parents venaient de Galicie. Donc quand ils sont partis dans les années 30, c'était à l'époque encore un territoire polonais. Puis après, ça a été redonné à l'Ukraine. Les frontières ont été redessinées. Et je pense que quand on écrit un premier roman... il y a quelque chose qui sort en fait, les racines qui sortent, et je ne pouvais que parler de l'Ukraine et de ce pays qui, alors maintenant on le connaît un peu mieux, mais quand j'étais petite et que je disais que j'étais d'origine ukrainienne, les gens ne voyaient pas trop où était l'Ukraine, donc j'avais envie justement de rendre hommage à ce pays-là.
Et alors, justement, il y a la nature, mais il y a aussi tout ce qui est mythologie.
Oui.
Qui est vraiment présent dans les 3 livres. Oui. Enfin, la nature aussi, ceci étant, elle est
oui, c'est vrai.
Voilà. Oui. Et donc, cette passion pour la mythologie, c'est...
Alors oui, je suis professeure de lettres classiques, donc c'est-à-dire que j'enseigne le français, le latin et le grec ancien. Et je pense que je suis devenue professeure de lettres classiques parce que la mythologie me parcourt en quelque sorte. Quand je regarde le monde, les mythes sont une sorte de prisme en quelque sorte. Et pour moi, en fait, la catastrophe de Tchernobyl était une nouvelle tragédie moderne, en quelque sorte. On avait exactement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est la démesure humaine aussi, c'est l'homme qui finalement change la nature et crée quelque chose d'autre. Et dans les tragédies, dans les mythes, on a cette hubris, cette démesure humaine qui fait qu'à un moment donné, la puissance divine dit « maintenant... vous les hommes, vous allez vous remettre à votre place, et donc la tragédie arrive. » Et là, pour moi, cette tragédie-là, on ne peut pas trop expliquer effectivement quel est ce sens de cette tragédie, et pour moi, c'était justement cette démesure de l'homme. Et après, par la suite, j'ai effectivement fait des ponts entre, par exemple, quand on va à Pompéi ou quand on va à Herculanum, on a une carte postale finalement de ce qu'était l'Antiquité. Et quand on se balade dans Pripyat, on a aussi une carte postale de ce qu'était l'ère soviétique, en quelque sorte. Et puis, donc Pripyat, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une Pompéi moderne, en quelque sorte. Et puis par la suite, j'ai tissé des liens entre justement cette catastrophe et la mythologie qui servait finalement à expliquer pour moi cette catastrophe.
Et alors donc, Acrylie dans les ruines, c'est un premier roman. C'était le premier roman d'Alexandra. Et donc, peut-être que David, ce serait intéressant de savoir comment comment tu en es venu à le publier, en fait, oui. Ce premier roman?
Merci, parce que la dernière fois qu'on était en librairie, c'est toi qui as raconté l'histoire, comme ça je vais donner ma version de l'histoire. Les éditions Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition que j'ai créée avec des amis il y a 12 ans maintenant, qui est une maison de création, c'est-à-dire que la plupart des auteurs qu'on publie, c'est des auteurs dont on a publié le premier roman, et c'est une maison d'auteur. Ce qu'on appelle une maison d'auteur, c'est une maison où on fait venir un auteur en se disant que tous ses autres textes, s'il le veut ou si elle le veut, resteront dans la maison, mais si on lui donne cet espace, qu'on lui donne cet appui, la personne va gagner en maîtrise, en ambition, en profondeur, en perspective historique, et voilà. Donc c'est une maison d'auteur, et on a publié beaucoup de primo-romanciers qui sont maintenant pas des primo-romanciers, parce que pour certains, c'est le cinquième, sixième qu'on publie. Donc Alexandra, on en a publié deux, on va en publier un troisième. Voilà. Un jour, je reçois le manuscrit d'Alexandra, et c'est un manuscrit que je lis très vite, du début à la fin, ce qui m'arrive assez rarement, parce que je reçois beaucoup de manuscrits, et souvent, je lis quelques pages, je me dis « Ah, ça, de toute façon, ça collera pas, donc j'élimine très vite. » Et d'autres, je les mets sur une pile en disant « Cela, il faudra les lire en entier, ils sont importants. » Mais finalement, je le lis assez vite. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent. Alors au début, il y a une chose qui peut sembler secondaire, qui me plaît beaucoup, qui m'attire personnellement, c'est que j'ai pas de lien du tout avec l'Ukraine, mais j'ai grandi pas très très loin d'une centrale nucléaire. Voilà. Et en fait, alors je ne sais pas s'il y a des centrales nucléaires par ici, mais quand vous grandissez, par exemple, dans la vallée du Rhône, il y a une aire qui s'appelle l'aire des trois centrales. Où, si vous montez sur une colline, vous voyez trois centrales avec chacune deux cheminées. C'est pas très rassurant, mais voilà. Mais quand vous vivez là, ça fait partie du monde normal. Et puis il y a des bizarreries comme... Par exemple, régulièrement, les pompiers vous disent de ne pas remplir votre piscine, de ne pas changer l'eau de la piscine parce qu'elle vient du canal du Rhône et qu'il y a eu un écoulement de la centrale, mais que ce n'est pas grave. Mais bien sûr, ça rassure jamais les gens. Il y a des distributions de pastilles régulièrement. Il y a plein de petites choses dans la vie quotidienne. Il y a le fait que c'est la visite annuelle pour les collégiens. Il y a plein de trucs, voilà. Et donc, j'étais devenu incollable sur ça. Et donc, ça m'a d'abord attiré par ça. Ça m'a attiré aussi par une autre chose, c'est que... quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège, c'est le moment où il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. Et c'est le moment où on a commencé à faire beaucoup de voyages scolaires dans les pays de l'Est. Donc moi, je me suis retrouvé à d'abord beaucoup voyager en République tchèque, puis j'ai un peu voyagé en Pologne. Le monde de l'Est m'a fasciné, et parfois il m'a fasciné pas nécessairement par les cultures historiques qu'il y avait derrière, mais aussi par ce dont on parlait en France peut-être à la fin des années 90, début des années 2000, qu'on appelle l'ostalgie, qui est un terme en fait très ambivalent. L'ostalgie, c'est pas vraiment le regret de la période soviétique, parce que les gens sont conscients que c'est une période horrible, mais qu'il y a certains aspects du monde des années 90 qui étaient des aspects assez horribles, en fait, pour les gens qui venaient de ce monde-là. Un exemple, par exemple, moi, j'ai rencontré une fois une famille où le père était un professeur de droit très, très connu, et son fils avait fait une école de commerce. Et dans le monde tchèque ancien, bah, être professeur de droit à l'université, c'est bien, et voilà. Et dans le nouveau monde, lui, il était complètement paupérisé. Son fils, qui avait fait une école de commerce, qui ne jurait que par la publicité et l'argent, était extrêmement fortuné. Et le prof d'université se retrouve à laisser son appartement, à le louer en permanence à des touristes américains, et à l'habiter dans un tout petit truc en banlieue. Et voilà, bon, des choses comme ça qui font... Je suis quelqu'un de très bavard, donc il faut quand même que... Voilà. Tout ça pour dire que... Oui, je vais aller un peu plus vite, pardon. C'est des aspects d'abord secondaires qui font remonter mon attention, parce que donc j'adore le manuscrit, mais il y a quelque chose qui m'arrête sur le moment, c'est que il y a une dimension d'histoire d'amour dans le texte, et je suis un peu... gêné d'une certaine façon, parce que Mon rôle en tant qu'éditeur, c'est un peu d'accompagner les auteurs et autrices à finir leur texte, à le parachever par la discussion. Et autant je peux avoir des longues discussions, vous l'aurez deviné, sur l'nostalgie, le nucléaire et la nature, des choses comme ça, autant sur la partie récit amoureux, je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire comme ça. Et donc, j'ai écrit à Alexandra une assez longue lettre, assez détaillée, en disant « ça c'est très bien, ça c'est vraiment bien, il faut faire ça comme ça, ça m'a évoqué ça, ça m'a fait penser à tel texte, et voilà. » Et à la fin, j'ai dit j'espère que vous trouverez un éditeur, parce qu'en fait, moi je ne peux pas vous éditer. » Et voilà, et ça j'ai appris que ce n'était pas très bien de faire ça, parce qu'il fallait dire non, et après expliquer et pas le faire dans le sens inverse. Que je crois qu'Alexandra, ça l'a... Non, je ne sais pas, c'était un peu bizarre.
En fait, c'était le premier retour que j'avais qui comprenait réellement ce que j'avais voulu faire avec ce livre-là. Et parce que d'autres éditeurs pouvaient me dire, ont pu me dire, c'est super, on aime beaucoup, mais votre texte est écrit au passé simple, et il faut passer tous les verbes au présent. Et je ne voyais pas du tout comment passer tous les verbes au présent, ce n'est pas du tout la même narration. Mmh. Et en même temps, en tant que professeur, je dis aux élèves, n'écrivez pas au présent. Et donc, je ne me voyais pas après avoir une certaine... Enfin, j'aurais plus de crédibilité face à eux. Voilà. Et donc, voilà, j'avais des mails de ce type-là, ou des mails qui me disaient qu'il fallait ajouter des choses un peu plus dures, en fait, que vu que ça parle aussi de Tchernobyl, qu'on s'attendait à avoir des choses du pathos, en quelque sorte, et qu'il fallait ajouter des maladies. Sauf que c'était pas du tout mon projet. Au contraire, c'était montrer que malgré toutes ces cicatrices vécues par l'Ukraine, à chaque fois, le pays se relevait et il y avait une forme, alors c'est un mot à la mode, mais une forme de résilience en quelque sorte. Et là, en fait, c'était pas du tout mon projet. Et donc, le mail que je reçois, magnifique, avec vraiment, parce que David développe. J'étais vraiment charmée par ce que je voyais et je me disais qu'enfin, quelqu'un comprenait finalement que j'étais pas toute seule. Et à la fin, votre livre n'est pas dans ma ligne éditoriale. Et donc, en fait, voilà. Mais j'ai osé répondre, en fait, voilà, en disant que c'était pas, j'ai pas dit que c'était terrible, mais que c'était la première fois que je voyais qu'une personne, en fait, comprenait vraiment profondément ce que j'avais voulu faire avec une belle intelligence, et que ça, c'était vraiment, bah, pour le coup, des montagnes russes, parce que la fin était... il y avait une, pour moi, il y avait une incohérence avec la personne qui comprend tout, et en disant « c'est super, c'est super », et puis après de dire « je ne peux pas ». Voilà.
Et oui. et donc, quelques semaines, voire quelques mois ont passé, 2 mois. Non.
Oui, enfin, ouais, facile, parce que c'était au mois d'avril-mai 2017. Ah,
c'est fin août que...
2018. Ouais. 2018. Ouais. Et fin août, début septembre, ouais. Ouais. Ouais.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je reçois beaucoup de manuscrits, donc j'en lis régulièrement. Et régulièrement, je me prenais la tête dans mon temps et je disais, il était vraiment bien ce manuscrit, quand même. Comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres étaient mauvais. Hein. Je lis régulièrement quand même des bons textes. Mais j'y repensais beaucoup. Et en fait, ça me hantait. Je me souvenais de scènes. Je trouvais que c'était ça charriait beaucoup de sujets importants. Et puis finalement, à un moment, je me suis dit que c'était un peu idiot d'avoir dit non pour une très mauvaise raison. Parce que je pense qu'il y avait aussi une forme d'hubris chez moi, qui est que l'hubris de l'éditeur de dire qu'il faut toujours, d'une façon ou d'une autre, intervenir, alors qu'en fait, parfois, on n'a pas à intervenir. C'est-à-dire, le récit amoureux dans le texte, je pense que j'ai... En fait, ne vous méprenez pas quand je dis intervenir. Moi, je n'ai jamais écrit... Je ne suis pas écrivain. Je n'ai jamais écrit un seul mot dans les romans publiés par Les Forges. C'est plus être disponible pour la discussion. C'est ça que je veux dire, intervenir. Donc, ce n'est pas vraiment intervenir. Discuter avec... Mais donc, je lui ai réécrit, je lui ai dit excusez-moi, Alexandra, mais juste pour savoir, il est toujours disponible votre texte, parce qu'il m'intéresse finalement. Et
Alors, En fait, c'était plus long que ça quand même.
Oui, d'accord. Non, mais je me suis rendu compte que je parle beaucoup, donc je fais la personne.
En fait, là, c'est un peu une certaine humilité de ta part, mais il a écrit un très beau mail en disant que, donc effectivement, le texte le hantait toujours, qu'il ne savait pas effectivement s'il était l'éditeur de ce texte-là, parce que l'histoire d'amour était aussi. Pas compliqué, mais je sais pas si tu as dit que tu avais un cœur de pierre ou je sais pas ce qui est ridicule. T'as pas, enfin voilà, bref, il n'a pas un cœur de pierre du tout. Et il me disait on va le travailler ensemble. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais à un moment donné, voilà, je prends le parti de travailler avec vous ce texte. Et moi, je trouvais ça beau en fait. Il y avait une certaine symbolique en quelque sorte dans le mail avec le texte hante et revient toujours. Et voilà, moi ça me parle avec les mythes, etc. Et donc j'ai répondu qu'on pouvait travailler ensemble, effectivement.
Oui. Et ça allait assez vite parce que, en fait, on a fait une première réunion de travail et je lui ai fait des petites remarques comme ça. Et très vite, j'avais une nouvelle version du texte. Et donc je me suis dit ah mais en plus c'est super de travailler avec elle et donc là on est passé dans quelque chose de plus classique, c'est-à-dire de faire un contrat et puis de commencer à parler date de publication et puis voilà.
Et là aussi en fait l'annonce de la date de la publication c'était par mail et je me souviens encore j'étais dans le RER et je rentrais de mon travail, en fait, et donc je reçois un mail de David, et je me dis, c'est chouette, on va continuer à travailler, comme on l'avait déjà fait depuis deux mois, ouais, à peu près, deux mois. Et là, donc, il m'annonce qu'effectivement, ce sera pour la rentrée littéraire de septembre, septembre 2019. Et voilà, c'était parti, et c'est assez incongru parce que dans le RER, c'est pas forcément très glamour comme environnement, et il y avait une joie en fait que je pouvais pas partager avec les autres. Voilà.
Et après, comme beaucoup de romans, le titre final n'est pas le titre du manuscrit. On a eu plusieurs titres sur le texte initial parce que souvent les auteurs ou autrices ont un titre en tête quand ils écrivent. Puis finalement, au cours d'écriture, ils peuvent en changer. À la fin, ils changent le titre pour l'envoyer à l'éditeur ou l'éditrice. Et puis, parfois, au cours de la discussion, le titre change. Et nous, c'est un peu particulier parce qu'on avait du mal à trouver un titre quand même. Il y avait des jolis titres, mais il n'y avait pas le titre parfait. Or, le titre, c'est ce qui fait venir les gens, c'est aussi c'est ce qui fait fonctionner esthétiquement d'une certaine façon l'œuvre. C'est-à-dire, il y a des romans, on change le titre, le sens de l'œuvre change. Et donc, c'est au cours d'un dîner avec d'autres auteurs des Forges qu'un auteur a trouvé ce titre.
Oui, en fait, au tout début, quand j'ai écrit le livre, au départ, c'était projeté comme Tchernobyl, donc il n'y avait pas d'affect du tout, rien, enfin, c'était vraiment le fichier de base. Et puis, à la fin du premier G, donc le premier G, c'est quand on a écrit le texte une première fois, je l'ai appelé Rayonnante, parce que je trouvais que Léna, donc le personnage principal, était justement quelqu'un de très rayonnant. Voilà. Et ça m'allait. Au début, alors pour ceux qui ont lu le livre, il y avait seulement le parcours de Léna, mais il n'y avait pas les lettres d'Ivan. Et puis après, quand j'ai relu le texte quatre mois après les premiers envois aux éditeurs, je me suis mise dans la peau d'une lectrice. Enfin, en fait, c'est assez bizarre comme fonctionnement. C'est-à-dire que même si c'est moi qui l'ai écrit, quand on l'oublie 4, 5, 6 mois, par la suite, en fait, quand on le relit comme un lecteur. Et là, moi, en tant que lectrice, je me suis dit, mais pourquoi finalement je n'entends pas la voix d'Ivan un peu plus tôt? Et donc, j'ai choisi qu'il écrive des lettres je voulais une autre narration. Et rayonnante ne convenait plus. Et puis les rayonnants, alors là pour le coup ça faisait un peu livre de science-fiction, et puis bon avec les rayons c'est particulier. Et donc quand on a signé le contrat, c'était les deux terres, parce qu'il y a deux terres. Okay. Alors là c'était le titre basique, mais j'aimais bien, il y avait une certaine simplicité. Et à la fin des corrections, j'ai dit à David que les deux terres ne me convenaient plus. Pour moi, c'était devenu très plat, qu'il n'y avait rien de qui se dégageait finalement, alors qu'au fur et à mesure du travail avec David, avec l'éditeur, le texte est de plus en... Enfin, on a vraiment cette affection pour ce texte grandit. Voilà. Donc, les deux terres, ça ne convenait plus. Et de nouveau brainstorming. Donc, on a un échange un échange. Et donc on tombe sur le titre, un titre qui est L'Arche Verte. Et on était contents.
on n'est pas très bon, ni l'un pour l'autre, ni l'un ni l'autre pour ce type d'exercice. Donc on n'aurait pas fait fortune dans la publicité. Hein, c'était.
Et voilà. Et donc alors ce qui est bien au Forge, c'est que tous les mois il y a un dîner entre forgerons. Enfin, comme les auteurs ont dit qu'on est des forgerons. Et donc c'était mon premier dîner avec les auteurs des forges, avec les forgerons, et forcément ils me demandent de quoi parle le livre, mais aussi quel est le titre, et je leur dis c'est l'Arche Verte, et là en fait en face de moi, rien, il n'y a pas, personne ne réagit, hein, bah, l'Arche Verte, alors il y en a un premier qui me dit l'Arche Verte, on entend archevêque, c'est... Peut-être qu'on va te faire répéter, pourquoi, voilà. L'arche, c'est quelque chose qui est lourd et qui n'est pas dynamique, donc pour un livre, ça fait un peu soporifique. Rayonnante, effectivement, il y avait un dynamisme qui était là, qui était bien, il faut que tu changes. Et donc, on était proche de l'impression, hein, voilà. C'était... et donc là, j'étais complètement dépitée. Forcément.
Est-ce que la couverture était déjà, enfin le graphisme était déjà en place?
Il y avait la première version, je pense.
Ouais.
Avec l'Arche Verte, ça aurait été un peu.
Ah, il y a une règle, c'est que, un tout petit truc que j'ai appris en travaillant avec différents graphistes, c'est que normalement un bon graphiste sait que le visuel et le titre ne doivent jamais être redondants. Si le roman c'est une partie de chasse, il ne faut pas qu'il y ait des chasseurs ou de la forêt. voilà. Il faut toujours jouer sur l'écart. Donc, c'était pas.
Il
n'y voilà. a pas de ruine, il n'y a personne qui crie. Et, voilà.
On ne sait pas s'ils le font peut-être.
Oui, ils le font peut-être sous le masque.
Et donc, les auteurs ont voyé que j'étais vraiment dépitée. Parce que là, on était reparti pour un tour. Et il y a un auteur des forges, donc, qui s'appelle Gilles Marchand, qui me dit que quand il a du mal à trouver un titre de livre, il lit de la poésie, puisque les poèmes vont créer des images, en fait par ricochet, il va y avoir des images qui vont se créer. Et donc il continue en me disant que là, en fait, en ce moment, il lit un poème qui ressemble, il faudrait que je le lise parce que il trouve des points de similitude avec mon livre. Et il dit, c'est un poème d'Aragon qui s'appelle « Poème à crier dans les ruines ». Et là, je tombe amoureuse du titre. Alors il continue, et je lui dis, non mais attends, en fait, on a le titre. Donc on enlève « Poème », on garde « Ah » parce que « À crier dans les ruines », c'est pas la même chose que « Crier dans les ruines », mais « À crier dans les ruines », là. Et on se tourne vers David, donc, qui est en bout de table, et on lui dit, on a le titre. Et donc on donne le titre.
Donc vous aurez compris que je ne suis pas d'un naturel enthousiaste. Voilà. Mais là, je ne pouvais pas prendre 4 mois, par contre. Hein.
Et donc, en fait, on lui dit, et donc David, très philosophe, finalement, dit, nous sommes en fin de dîner, et parfois, les idées de fin de dîner ne sont pas forcément les meilleures. Donc, attendons demain matin, et peut-être que demain matin, on y verra plus clair. Et en fait, quand je rentre chez moi, je ne connaissais pas ce poème d'Aragon. Et quand je rentre chez moi, je regarde, je lis ce poème. Et dans le poème, alors c'est un long poème, et dans le poème, Aragon parle de Mazepa, qui est un chef cosaque ukrainien. Mm-hmm. Et alors, moi j'adore les symboles. Et dans le livre, il y a plein de, voilà, oui, c'est autour ça, de, il y a plein de symboles. Et là, je me dis, non mais il faut que ce soit ce titre-là. Donc j'ai envoyé un message à David en disant, on garde le titre.
Ouais. Voilà. Et il y avait un autre symbole pour moi, c'est que c'était... Il y a une analogie d'un point de vue éditorial entre ce texte et un autre texte des Forges, qui était le premier roman de Gilles Marchand, qui s'appelle Une bouche sans personne. Les deux romans sont très différents. Mais il y a une analogie, c'est pour ça que j'ai dit l'analogie d'un point de vue éditorial, c'est que les deux romans sont fascinants sur leur capacité à parler de plein de thèmes, à bien les articuler avec élégance, mais en plus, ils ont une touche d'émotion que le travail éditorial ne crée pas. Le travail éditorial, c'est vraiment, c'est la robinetterie, on sert des trucs, mais on ne crée rien, en fait. Et le roman de Gilles, qui était aussi un premier roman, son titre, c'était aussi un vers de poème. C'est Une bouche sans personne, c'est aussi un vers. Et donc, je trouve ça symbolique, voilà, que des années après, on ait un autre premier roman, dont le titre soit un vers, et en plus, c'est Gilles qui a un peu aidé, Donc, effectivement, un symbole qui guide nos choix. Et c'est devenu à crier dans les ruines. Et en fait, la couverture qu'on avait, c'était... Les Forges travaillent depuis presque le premier jour avec une graphiste qui s'appelle Elena Vieillard. Et Elena, qui a gagné il y a deux jours le prix de la meilleure graphiste c'est le Grand Prix de l'Imaginaire. Voilà, Grand Prix de l'Imaginaire en catégorie graphisme. Pour ses couvertures. Elena, elle est très particulière, elle ne travaille que pour les Forges, en tant que graphiste de livres, parce que on lui donne une idée, même pas une idée, elle nous demande de quoi ça parle, quels sont les sentiments qui viennent avec la lecture du texte, et elle fait quelque chose. Et il ne faut pas lui dire « Ah, je veux tel objet, puis tel objet, tel objet, puis dans ce sens-là, et puis tel type de couleur. » Non, non, il faut la laisser faire. Et elle revient parfois une heure après, avec une première proposition. Et souvent, c'est la bonne proposition. Alors celle-là, sur ce titre, on a eu deux couvertures. Cette version, enfin non, on n'a pas eu cette version-là d'abord. On a eu une version inversée. C'est-à-dire, on avait une version où il y avait un champ de coquelicots et deux personnes qui ont un scaphandre nucléaire dessus. Et en fait, on s'est dit que je l'ai envoyé à Alexandra en disant, tu vois, on travaille, mais je t'ai dit, ce ne sera pas la bonne couverture. Je trouvais ça un peu cucu, en fait, deux amoureux en scaphandre au milieu d'un champ de coquelicots. Et en fait, en discutant, je sais plus, c'est avec toi ou c'est avec Elena, donc j'ai discuté pour refaire la deuxième version. Avec Elena ou...
Non, je pense que c'est Elena.
C'est avec Elena. Ouais. On s'est dit, ça serait plus intelligent de faire l'inverse. C'est-à-dire un champ de personnes sous scaphandre et des coquelicots qui poussent entre eux. Alors, le coquelicot, c'est parce que c'est une des fleurs symboles de l'Ukraine. Bon, comme ça parle de Tchernobyl, c'est des scaphandres des nettoyeurs. Voilà. Tous les nettoyeurs n'avaient pas des scaphandres, mais c'est une autre histoire. Et donc, on a eu très vite cette deuxième couverture, on a eu le titre, et puis ça a été une très très belle aventure. En fait, on vous parle de ce qu'il y a autour, parce que moi, je suis toujours gêné de paraphraser un roman où voilà, il faut que... j'espère que ce qu'on vous dit, ça ne change pas vraiment l'expérience de lecture, parce que c'est vous qui l'aurez si vous ne l'avez pas lu, voilà. Mais ça a été une collaboration qui est... C'était fantastique parce que c'est un texte qui, moi, donc pour plein de raisons que je ne vais pas redétailler, m'a passionné. Et puis, c'est très agréable de travailler avec Alexandra. Et puis, il y a eu un très, très bel accueil du texte, ce qui était peut-être pas complètement donné parce que c'est un texte, certes, sur Tchernobyl, mais qui prend un angle original sur Tchernobyl, et puis qui le tisse avec le mythe, la légende. Il y a aussi un autre sujet, c'est que c'est un texte très européen, en fait, puisque un des sujets qui apparaît dans le texte, c'est comment la culture livresque des individus, le fait de lire des romans, ça crée petit à petit leur identité personnelle. Et que l'identité personnelle des Européens lecteurs, c'est quelque chose qui va prendre des lectures de toute l'Europe pour constituer des tempéraments singuliers. Donc ça a l'air très abstrait comme sujet, mais c'est traité avec beaucoup de naturel et de simplicité parce que ça reflète tout simplement la vision du monde de l'auteur. Donc c'est après rétrospectivement il y a toujours une magie dans les livres, mais rétrospectivement on peut trouver des formules pour essayer d'analyser ce qui se passe, mais il y a toujours cette idée d'avoir un sujet universel, une écriture singulière. Et c'est ça qui fait souvent les grands romans, sujet universel, écriture singulière. Et là, d'une façon, les sujets sont universels. C'est l'amour, la nature, la survie, et par...
L'exil aussi.
Oui, l'exil aussi. Oui.
Le déracinement et l'exil. Ouais. En fait, hein.
L'idée, en fait, c'est... on a toujours, chez presque tout le monde, il y a un conflit entre l'identité verticale, celle qu'on a reçue, donc le pays où on est né, et l'identité horizontale, c'est-à-dire l'identité qu'on va se créer ou qui va nous faire prendre un pas de côté, où on est la pomme qui roule loin du pied de l'arbre. Voilà, donc, le personnage de Léna, c'est un peu ça, c'est à la fois, son identité verticale ne disparaît jamais complètement, mais son identité horizontale la traîne parfois loin. Non, la métaphore de la pomme n'est pas bonne, parce que maintenant j'ai une pomme dans ma tête qui se déplace et qui roule autour d'un arbre, voilà. Mais voilà.
Et la littérature aussi, qui est quand même terriblement importante, qui sauve.
Ah oui, complètement. Oui. Alors c'est vrai que avant d'écrire un livre, j'écris toujours un synopsis. Donc là, j'avais un synopsis de 2 pages où j'avais effectivement les différentes péripéties vécues par les personnages, mais j'avais pas de couleur encore, où je n'avais pas donné de l'épaisseur à ces personnages-là. Et c'est en écrivant les différents chapitres, que Léna a pris cette coloration finalement avec la littérature. Pour moi, quand on écrit, on se met à la place des personnages, et je voyais cette adolescente qui finalement avait plein de questions, des parents complètement mutiques, et finalement, que fait-on dans ces cas-là? C'est aussi un petit peu ce que j'ai fait en quelque sorte, parce que surtout sur un premier roman, on met beaucoup de... Alors, c'est pas du tout une autobiographie, mais on met beaucoup de soi-même. Et c'est vrai que, moi, la littérature a répondu à de nombreuses questions. Et donc, j'ai mis aussi cette couleur, finalement, chez Léna.
Dès le point de départ, tu as choisi Tchernobyl, ou ça s'est arrivé dans un second temps? Parce qu'il y a très peu de littérature qui parle de ce sujet-là.
Oui, oui.
Il y a un bouquin, La fausse aux ours, il y a quelques années.
Oui, c'est vrai.
C'était très beau aussi.
Oui, de Chopin, oui. Antoine Chopin. Ouais.
Comment ça s'est imposé de faire le point de départ?
Je pense que de façon inconsciente, en fait, quand j'étais petite et que je disais que j'étais d'origine ukrainienne, les gens ne voyaient pas du tout où était l'Ukraine. Et quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl...
Je pense qu'il y a 6 mois, ils ne savaient pas où.
Oui.
Ils avaient oublié,
oui. Mais avec la catastrophe... Oui, complètement.
Voilà.
En fait, après Tchernobyl, les gens ont commencé à voir où était l'Ukraine, peut-être en se disant effectivement que c'était une région de la Russie, encore. Enfin, mais on voyait quand même, on voyait un petit peu mieux. Et je trouvais que c'était terrible, en fait, qu'un pays soit stigmatisé par une catastrophe. Mais c'était finalement la porte d'entrée du lecteur, Tchernobyl. Et par la suite, de mener ce lecteur, non pas à Tchernobyl, mais de le conduire vers la beauté de ce pays, en quelque sorte. Pour moi, je pense que ça a été ça. Mon inconscient... Voilà, on m'a fait dire que c'était la porte d'entrée. Et puis, en fait, ce qui a déclenché l'écriture aussi, vraiment, c'est « Un printemps à Tchernobyl » d'Emmanuel Lepage. Donc, c'est une BD. Ouais. Parce qu'en fait, je lis tout ce qui sort sur l'Ukraine, où j'ai pu voir un film comme La Terre au trajet, par exemple. Et là, donc, quand j'ai vu qu'il y avait une BD qui s'appelait Un printemps à Tchernobyl, je l'ai achetée, tout en me disant que j'allais voir de nouveau des choses terribles. Et en fait, Emmanuel Lepage, donc c'est une BD de commande, et lui aussi, il a peur d'aller dans cette zone contaminée, et donc le lecteur suit son parcours. Et quand il arrive dans cette zone interdite, il s'attend à voir une forêt calcinée, une forêt, enfin un sol qui n'est plus fertile, etc. Et là, en fait, le lecteur découvre des planches vertes. J'ai arrêté de lire et je me suis demandé ce que c'était. J'ai tapé Pripyat dans Google et j'ai vu cette forêt qui était revenue. Et donc ça a déclenché l'écriture. Je me suis dit ok, dans mes textes, alors en fait, avant d'écrire ce roman-là, je faisais pas mal d'ateliers d'écriture, mais autour d'une photographie, et j'écrivais un court texte. Et ça, je l'ai fait pendant 6 ans chaque semaine. Et en fait, tous ces textes-là, quand je les relis, traitent de la nature qui reprend ses droits, de la métamorphose, de la quête identitaire aussi. Et donc, obligatoirement, quand on lit quelque chose, l'auteur est avant tout un lecteur, hein, quand on lit quelque chose, ça fait pousser des ramifications, finalement. J'ai envie de raconter ça, j'ai envie de raconter cette nature qui est là et qui reprend ses droits. Donc voilà, et ça passait par Tchernobyl.
C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup aussi dans La Dixième Muse.
Oui. Alors dans je pense que quand j'ai terminé les corrections d'Acrier dans les ruines, j'avais pu parler de cette nature, mais là encore, il y avait une frustration. Je n'avais pas pu en parler jusqu'au bout. Il devait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, quand on termine un livre, on ne sait jamais quand il est vraiment terminé, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi le lâcher, parce qu'à force aussi de le travailler, on peut perdre une certaine spontanéité, en quelque sorte. C'est bien de le retravailler, mais jusqu'à un certain point. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que les livres, même si on a le mot fin, on peut retrouver des thématiques justement parce que j'avais pas terminé avec cette nature et donc j'avais un autre texte que j'avais commencé avant la publication d'Acrier dans les ruines, qui était un texte autour de Guillaume Apollinaire. Et donc j'avais déjà une cinquantaine de pages écrites autour de Guillaume Apollinaire et j'avais cette envie forte de travailler sur la nature. Et donc, ça a donné La Dixième Muse. Voilà.
Ça s'est prolongé après dans Emona aussi.
Voilà. Hein,
parce que là, c'est...
Ouais. Alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que... Alors, moi, je suis d'origine normande, mais j'ai choisi de demander ma mutation pour enseigner en région parisienne. Quand j'ai demandé ma mutation, mes collègues m'ont dit que j'étais folle, en fait, parce que j'enseignais au lycée de Deauville et donc j'avais vu sur la plage. C'était un peu paradisiaque, mais alors c'était mon premier poste, donc on pense que tous les postes sont comme ça. Et donc j'ai demandé ma mutation et j'ai atterri dans la zone industrielle de Plaisir, donc là j'avais vu sur IKEA. Mais
j'ai travaillé.
Ah oui?
Ouais, j'ai fait ça 3 ans aussi, moi. J'ai essayé de Plaisir, on en parlera après. Qui porte très mal son nom d'ailleurs. Oui.
Mais alors, c'était dans un collège qui s'appelle La Fosse aux Dames.
C'est la totale, ça.
Voilà.
Ils n'ont pas eu de tapot, ça va?
Non. Donc, effectivement, quand je commence à écrire, je suis quelqu'un qui habite à côté de Paris, je suis une citadine, j'adore les musées, voilà. Et en fait, je me rends compte, via l'écriture, petit à petit, que la nature est quelque chose qui... Elle est en moi et qu'il y a une sorte d'appel, en quelque sorte, que je ne peux pas... je peux pas réfréner c'est vraiment un élan en quelque sorte. Et donc j'ai commencé à le voir dans écrit dans les ruines. Dans la dixième muse, là, c'est quelque chose qui effectivement a explosé et je me suis demandé même pourquoi j'habitais en région parisienne et surtout que effectivement après en y réfléchissant à chaque fois que j'ai des vacances, je vais en Lozère ou dans la Creuse ou dans la Vienne, donc pas du tout dans des coins magnifiques, mais loin de ce que je peux vivre à Paris. Et quand j'écris le sanctuaire des Mona, encore une fois, en fait, comme c'est pour les grands ados, les jeunes adultes, je me suis dit qu'il fallait que je leur montre aussi ça. Voilà, parce que ma passion finalement pour cette nature qui est là et qui, pour moi, a des choses à nous dire et qu'on entend. Voilà, donc j'avais envie là, aussi dans le sanctuaire des Mona de travailler cet aspect-là, et toujours avec les mythes, en quelque sorte. En fait, pour le sanctuaire, là, je me suis demandé, je me suis dit que c'était... Donc, je travaille aussi avec les adolescents, je les vois chaque jour, et que donc c'était pour moi une forme de... en quelque sorte, j'avais l'opportunité de redevenir adolescente. Et quand j'ai écrit Synopsis des Mona, c'était ça. Qu'est-ce que j'aurais voulu lire au moment où j'étais adolescente? Et voilà, le sanctuaire est sorti.
Moi, personnellement, j'aimerais bien lire la suite quand même, parce que ah oui. ça s'arrête un petit peu.
Ah oui, bon, je termine quand même, ouais. Mais effectivement, il y a, il y a des questions qui
restent. Il y a quand même beaucoup de questions. Ouais.
Ben là, oui, en fait, la suite...
La suite, elle arrive quand
en 2023.
Ah oui. Voilà. Peut-être que vous avez des questions à poser, voilà.
Moi, j'en ai bien une, mais qui ne concerne pas directement le livre que j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai été très interrogative pendant tout un moment sur ce que venait faire la mythologie. Non, ça, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, donc ça m'a bien aidé pour la compréhension. Moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois dans les républiques de l'Est quand j'étais gamine, en tant que fille de déportée. Donc, je suis allée en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie. Je suis allée en Crimée pendant un mois, au mois d'août 1961. J'ai été très, comment dire, étonnée et un peu admirative quand même, je dois le dire, de ces jeunes Russes. Il n'y avait pas que des Russes, il y avait des gens du monde entier. J'ai particulièrement dialogué avec un jeune Russe qui avait 16 ans. J'étais en latin grec et il connaissait bien mieux la littérature française que moi. Ça m'avait complètement scotché. Je me suis dit, oh là là, c'est drôlement bien l'enseignement aussi quand même. Voilà, bon. Après, la question que je me pose, c'est après 91, quels sont les marqueurs forts de différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était important tout d'un coup en Ukraine? Comment ça s'est passé? Pour moi, la Crimée, j'étais en Crimée, c'était vraiment idéal.
Donc effectivement, en 91, c'est l'indépendance de l'Ukraine. Oui. Donc auparavant, c'est une république soviétique. Oui. Donc il y a un éclatement de l'URSS. Oui. Je pense que... Alors, Je vais parler par rapport à mon éducation. Mmh. Dans mon éducation, en fait, il y avait toujours une forme de différence, si on peut dire ça, entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose qui était assez fort, un conflit qui était là, qui était un peu, qui était larvé. Et je me souviens, par exemple, d'un dîner avec ma grand-mère. Il y avait un Polonais d'un côté, c'était la géopolitique au dîner, mais un Polonais d'un côté et un Russe de l'autre. Et ma grand-mère qui se tourne en fait vers le Polonais et elle dit « je ne comprends pas le Russe ». Et elle se met à parler polonais avec le Polonais. Mm-hmm. Moi j'ai été éduquée de cette façon-là, c'est-à-dire une forme de... je ne sais pas comment vous dire, de en fait, quand l'Ukraine a été envahie en février, on me demandait effectivement si ça pouvait mal tourner. Et il y avait ce côté, non, au XXIe siècle, on ne peut pas de nouveau avoir cette invasion. Et en même temps, il y a une certaine fatalité, en fait, chez les Ukrainiens, du moins dans ce que je connais, avec ce côté, à un moment donné, on va de nouveau nous envahir. Et quand on voit, en fait, l'Ukraine, c'est un pays qui est situé à des carrefours. Et donc, obligatoirement, c'est extrêmement riche, tout simplement parce qu'il y a une diversité culturelle qui s'est créée, notamment aussi en Crimée. Et en même temps, un territoire qui est sans cesse envahi, morcelé, donné. Moi, par exemple, mes grands-parents viennent d'une région qui s'appelle la Galicie. La Galicie a été, sous l'Empire austro-hongrois, a été polonais, enfin soviétique aussi. Et donc, pour moi, les marqueurs forts, ce ne sont pas les frontières, justement, de ce pays-là, parce que les frontières bougent tout le temps et on ne peut pas, finalement, raisonner avec elles. Mais c'est ce qu'il y a plus profondément dans la terre, en quelque sorte. Un attachement à la terre qui, pour moi, quand j'ai écrit « À crier dans les ruines », j'ai notamment travaillé sur des personnes, sur les Samosioles, qui ont été évacuées de cette zone, mais qui reviennent. Et quand on les interroge, ils nous disent « Je ne peux pas vivre ailleurs, c'est ma terre ». Et c'est vrai qu'il y a ce fort attachement à quelque chose qui... Finalement, pour moi, parce que je l'interprète avec mon regard, mais qui a un lien avec cette nature, en fait, en quelque sorte. Mm-hmm. Cet attachement qui est...
Si. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de l'histoire d'amour là, qui avait l'air de déranger. est-ce que c'est ça qui a été le remanié?
Alors, en fait, il n'y a rien qui a été vraiment remanié. Non, c'est vraiment... au contraire, l'histoire d'amour, je n'ai pas suggéré une seule modification parce que je ne voyais pas du tout comment le faire. Voilà, j'avais l'impression que... Mais après tout, il y a un dicton américain qui dit « Quand quelque chose n'est pas cassé, c'est peut-être pas la peine de le réparer. » voilà. Non, c'était plus... Parfois, je faisais une remarque... À tel moment, il y a une mention de quelque chose. Mais à tel moment, il y a une autre mention, et en fait, elles se répondent. En fait, souvent, c'est la différence, je pense, entre... Les écrivains sont à la fois des artisans et des artistes, et le côté artistique, on le voit à la fois parfois dans la vision qu'ils ont et dans les intuitions qu'ils ont. Par contre, le travail artisanal, ça va peut-être consister parfois à prendre l'intuition et demander... à l'auteur ou l'autrice, est-ce que tu as effectivement eu cette intuition? Et là, en fait, on les aide quand c'est possible parfois à avoir ce type de, je sais pas, de réalisation, quoi, d'épiphanie, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose. Hier, j'étais à Paris à une conférence sur les jeunes écrivains. En fait, je me suis rendu compte que parfois, dans mes interventions, je peux créer un quiproquo sur le fait que c'est l'écrivain qui écrit. L'éditeur ou l'éditrice n'est pas auteur. Mais je pense, en fait, qu'on ne se rend pas compte qu'on a créé un mythe de l'écrivain solitaire, qui est un mythe qui date du début du 19e siècle, mais qui est encore très fort, alors qu'en fait, c'est vraiment un mythe, mais un imaginaire de l'écriture. Et quand on lit sur les pratiques réelles de l'écriture dans le passé, avant le 19e siècle, mais aussi depuis, on se rend compte que les écrivains qui ont écrit vraiment tout seul ne sont pas nombreux. C'est-à-dire Kafka, qu'on perçoit comme un personnage très solitaire, quand on lit son journal ou les journaux des amis de Kafka, des membres du Cercle de Prague, on se rend compte que souvent, il leur lisait à haute voix des passages, et il y a un moment où il raconte « Quand mes amis rient, je monte sur une chaise, je leur lis, quand ils rient, je dis que c'est bon et je garde, et quand personne ne rit, je froisse, je le jette dans un coin. » Et en fait, même Kafka, il n'était jamais complètement seul, mais c'est bien lui qui a écrit, c'est pas ses amis qui rajoutent quoi que ce soit. Et le rôle de l'éditeur ou de l'éditrice, c'est juste être à disposition, mais pas de forcer une manœuvre, pas de changer quoi que ce soit, et voilà. Quant à savoir, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment... Peut-être entre la toute première version et la dernière version, c'est toi qui as rajouté, qui as étoffé Ivan, mais ça vient de toi, en fait. Hein, donc,
Oui, alors en fait, moi ce que j'aime beaucoup avec David, c'est que il va me dire, par exemple, dans la dixième muse, tiens, ça m'a fait penser... à tel poème, donc je vais voir le poème si je ne le connais pas, ou je le relis si jamais je le connais. Et en fait, là aussi, alors je ne saurais pas vraiment vous expliquer quel est le processus, mais quand je suis en train d'écrire, tout ce que je vis en fait peut se métamorphoser en quelque sorte, c'est-à-dire que parfois je regarde un film et puis je vois quelque chose et puis je pense à mon livre et donc je mets sur pause et j'écris en fait l'idée, mais c'est pas ce que je vois, mais c'est par ricochet en fait je vais penser à quelque chose pour le livre. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que David, quand il me dit ça me fait penser à ça, je vais par exemple lire le poème, mais je vais pouvoir par exemple lire aussi d'autres recueils dans le poème, et grâce à ça, en fait, ça va me donner, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais finalement, voilà, ça va me faire jaillir une idée. Et tout, en fait, finalement, peut se métamorphoser quand on écrit. Enfin, c'est une lumière, un regard, par exemple, qu'on croise, un sourire, enfin, tout peut se métamorphoser. Et donc, David, quand on travaille ensemble, c'est ça. C'est-à-dire, il me dit, tiens, ça me fait penser à ça. Ou là, tu devrais, par exemple, dans Écrire dans les ruines, mettre un peu plus de littérature russe au début, puisqu'il y a il y a énormément de littérature française par la suite. Donc, en fait, pour essayer d'équilibrer la chose. Et je trouve que c'est joli. J'aime bien cette idée d'harmonie, en quelque sorte. Et les lectures de David, c'est ça. Il va avoir des lectures thématiques. Et il va me dire, bah là, fais attention, tu as beaucoup parlé de littérature française par la suite, donc pour éviter qu'il y ait un creux, on va rééquilibrer tout ça. Et donc après, bah voilà, ça fait ce livre.
Enfin, après, il y a très longtemps, j'ai lu un très bon livre, mais je pense qu'il n'est plus publié, qui s'appelle... je crois que ça s'appelle « L'adieu aux arts, l'affaire Brancusi » de, Edelman, je crois, l'auteur. C'est un livre de philo sur une histoire un peu... En fait, j'ai enseigné la philosophie de l'art, et je crois que c'est juste après la Première Guerre mondiale, le sculpteur Brancusi est invité à New York à une exposition de ses œuvres. Et il envoie les œuvres par la mer. C'est logique, il y a déjà des avions, mais bon, c'est des gros blocs. Non, alors, d'ailleurs, à l'époque, on fait pas ces distances-là en avion. Voilà. Et en fait, l'officier des douanes voit le gros bloc de métal et le taxe comme un bloc de métal, pas comme une œuvre d'art. Et à ce moment-là, le galeriste poursuit en justice l'État américain. Enfin les douanes américaines en disant c'est une œuvre d'art. Et les douanes américaines, au lieu de revenir sur leur décision, disent non, c'est un bloc de métal, c'est pas une œuvre d'art. Et je crois que le titre, l'œuvre, c'est Oiseau dans l'espace. Et donc à ce moment-là, il y a eu un vrai procès très connu, dont les minutes sont publiques. Et on fait venir plein de gens pour savoir si c'est vraiment une œuvre d'art, cette oiseau dans l'espace. Il faut venir à un sculpteur qui est le sculpteur qui fait les aigles américains. Vous savez, l'aigle américain, c'est un modèle, on le trouve sur plein de bâtiments publics. On lui demande, est-ce que d'après vous, ce bout de métal comme ça, c'est un aigle? Il dit, bah non, un aigle, ça a des plumes. Hein, voilà. Donc c'est un vrai débat philosophique. Le rapport avec le sujet, c'est qu'il y a un moment où Bancoussi, donc lui, ne se déplace pas pour le procès, mais répond par écrit à deux enquêteurs américains qui traversent quand même l'Atlantique pour venir l'interroger. Et il explique comment il crée. Et à un moment, l'avocat des douanes comprenant qu'ils sont en train de perdre du terrain, commence à dire, mais en fait, c'est pas Bancoussi qui fait la fonte des œuvres, parce qu'il fait le dessin. Il y a des ouvriers qui font la fonte, parce que c'est des compétences qui ne sont pas nécessairement les compétences de Bancoussi. Et en fait, c'est bien l'œuvre de Bancoussi, puisque c'est pas, la valeur esthétique de la chose n'est pas créée par les ouvriers qui vont tordre le métal pour Bancoussi. Moi, c'est la même chose. Par moments, l'artiste, la vraie créatrice, c'est Alexandra. Et moi, parfois, je suis... l'ouvrier qui est derrière, qui est nécessaire juste pour que ce soit pour que ce
c'est
soit
vulcain, c'est ça, vulcain.
Et toi, tu es la forgeronne.
Je suis la personne qui enlève la poussière, les petits bouts de métal qui traînent sur le sol, et voilà quoi.
C'est l'humilité.
Non, vraiment, parce que après, l'ouvrier de Bancoussi, il est important quand même, il sert à quelque chose. Donc,
lui, l'œuvre, il n'existerait pas non plus.
Oui, alors ça, c'est aussi un truc important, c'est que, voilà, c'est ça, le texte, c'est l'œuvre de l'auteur ou de l'autrice. Mais le livre, c'est une œuvre collective. C'est-à-dire, un livre, c'est une expérience esthétique qui est en grande partie l'expérience esthétique du texte, mais il y a aussi la couverture, le titre, le choix du papier, plein d'autres choses qui font appel à des compétences très variées qui sont souvent chez des gens qui sont assez spécialisés. Et je précise en fait qu'un des critères pour moi, pour revenir à la question tout à l'heure, d'un bon texte, d'un très bon texte, c'est que souvent c'est un texte qui fait lire d'autres textes. C'est-à-dire, même si parfois on entend dire qu'un excellent roman serait un roman qui achèverait la littérature, et on se dirait après ce roman, on ne peut plus lire. Non, moi j'aime bien les romans qui après m'emmènent dans d'autres choses, voire même les romans qui m'amènent à faire des choix existentiels inattendus. Donc par exemple, après avoir travaillé avec Alexandra sur Un crier dans les ruines, par exemple, une fois on a été invité à la librairie polonaise à Paris pour présenter le roman. Et en fait, la librairie polonaise, c'est la librairie polonaise, mais c'est une compréhension de la Pologne extrêmement grande, parce qu'en fait, c'est le Grand-Duché de Pologne, donc ça va jusqu'à la Crimée, quand même. Donc ils ont plein de livres, voilà, et donc je suis reparti avec plein de livres de cette ère géographique, cette grande ère géographique. Et puis, je me suis dit à un moment, pourquoi dans ton catalogue, t'as pas des textes de ces pays-là, il en faut, et donc... Je regardais, chacun de ces pays a un ministère de la Culture qui parfois invite des éditeurs étrangers pour quelques jours pour découvrir les musées, les maisons d'édition, les librairies locales, voilà. Et donc, par exemple, à l'automne dernier, je suis allé en Lituanie. J'ai passé quelques jours en Lituanie à rencontrer les éditeurs, des écrivains, des poètes. Et ce que je ne savais pas, en fait, c'est que une grande partie de l'Ukraine a été sur le territoire de la Lituanie à une époque, puisque la Lituanie a formé un grand-duché avec la Pologne, qui en plus, moi, m'a renvoyé à des éléments d'histoire personnelle, parce que la Galicie, je connaissais, parce que le nom, je connaissais le nom de Galicie par Roth, l'écrivain allemand, qui se définissait écrivain de langue allemande autrichien, en fait, mais se définissait comme galicien. Et en fait, il parle beaucoup du judaïsme galicien opposé au judaïsme des Litvaks, qui sont plutôt en Lituanie. Et moi, dans ma famille, récemment, il y a des gens qui viennent de la Lituanie. J'ai lu là-dessus, et j'allais en Lituanie pour trouver quelque chose de très particulier, mais ça rejoint un tout petit peu tes textes, c'est que la Lituanie a une caractéristique, c'est que c'est le dernier pays d'Europe à avoir été christianisé. Et donc, je crois que c'est 1368 quand même. Donc, c'est très, très tardif, la christianisation de la Lituanie. Et ce qui fait que c'est aussi le pays où il y a le plus de cultes bizarres qui restent. Notamment, donc les Lituaniens, apparemment, les grands trucs qu'ils aiment, c'est se balader en forêt et ils sont incollables sur les champignons. Voilà, enfin, c'est ce qu'ils vont raconter, bien sûr. C'est le ministère de la Culture lituanien, bon, donc ils vont raconter un peu ce qu'ils voulaient. Mais ils ont une connaissance des mythes de la nature, du panthéisme, ce type de choses qui est assez fascinante. Et rétrospectivement, je trouve aussi un écho avec ton travail, comme s'il y avait tout un aspect culturel qui lie ces pays. Parce que, en fait, je pense que ça m'a amené à reconsidérer, travailler sur ce texte, ou voyager en Lituanie indirectement grâce à ton texte. Ça m'a amené à reconsidérer une partie de mon éducation parce que quand j'étais adolescent, et que donc le bloc de l'Est a explosé, on a tous travaillé à accentuer les différences entre les pays de l'Est. Parce qu'après tout, c'est des pays qui ont des langues différentes, des cultures différentes, des histoires différentes, des écrivains, des patrimoines différents. Tout ça, c'est vrai. Mais d'une part, parfois, ils ont des patrimoines communs qui se superposent parce qu'il y a quelques siècles, c'était un seul pays. Ou voilà. Mais après, il y a quelque chose que j'avais complètement sous-estimé, parce que on avait banni l'expression « pays de l'Est ». Ça ne se dit pas parce que c'est générique, c'est grossier, voilà. Sauf que, en fait, en Lituanie, quand j'y étais, le gros sujet de conversation, c'est la russophobie des Lituaniens. C'est-à-dire, en Lituanie, en fait, la Lituanie est le seul État balte qui ne touche pas la Russie, il touche la Biélorussie. Mais la Lituanie a peur sur quelque chose, c'est qu'à l'ouest de la Lituanie, il y a l'ancienne enclave de Kaliningrad, qui est un territoire russe, mais qui ne touche pas le reste de la Russie. Et la Russie dit régulièrement qu'ils aimeraient bien pouvoir accéder par la terre à l'enclave de Kaliningrad. Le seul moyen, c'est de passer sur la Lituanie. Donc vous devinez que les Lituaniens, c'est un des grands sujets de conversation pour eux. Mais ça a aussi un impact sur la littérature et l'édition, par exemple, en Lituanie. C'est un pays où vous avez encore 7% des livres qui sont en russe. Et parmi les livres qu'ils nous ont présentés, il y avait un livre de une des grandes autrices lituaniennes qui écrit généralement deux livres en lituanien, puis tous les 3-4 ans, un livre en russe. Et alors c'était étrange parce que finalement, ils me l'ont donné, donc je suis reparti avec. Rétrospectivement, enfin c'était... Il y avait enfin, voilà, tout ça, c'est un peu emmêlé, mais c'est... Voilà, la lecture de tes romans, ça a beaucoup changé ma vie, en fait, sur plein de choses. Et donc, merci. Voilà. Bon, et finalement, j'ai pas trouvé de roman en Lituanie pour l'instant, mais je suis revenu avec une pile comme ça, et maintenant, je connais des traducteurs et des traductrices du lituanien...
Je propose peut-être d'arrêter là-dessus. On va remercier Alexandra et David de leur venue à la pêche. Vous pouvez boire un petit verre et discuter avec l'auteur et l'éditeur. Vous pouvez...